C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Dans un brin d'histoire, ce mois-ci, nous allons parler de l'abbaye de Bonnefond. C'est un ordre des cisterciens qui est le fondateur de Carbonne. Pour comprendre ce que représente l'ordre religieux des cisterciens, qui est né à la fin du XIe siècle, et son influence au Moyen Âge, il nous est nécessaire de remonter aux origines de la fondation des abbayes, venues pour la plupart de Bourgogne. Abbaye et monastère se confondent souvent au Moyen Âge. Le monastère est à l'origine un bâtiment, une résidence isolée, où vivaient les premiers moines. L'abbaye est une institution dirigée par un abbé ou abbesse. L'abbaye est propriétaire de ses lieux et de ses biens à perpétuité et dépend d'un ordre religieux. La présence des abbayes commence dès le 8e siècle et le modèle s'appuie sur la règle de Saint-Benoît. Cette règle s'impose comme unificatrice sous l'impulsion des pouvoirs politiques de Charlemagne et Louis le Pieux. Bien des paroisses sont desservies par des moines, et là où ils sont installés, ils détiennent de réels pouvoirs. Ils s'inscrivent donc dans la pyramide féodale. Le modèle est Cluny, qui est le lieu fondateur de l'ordre des bénédictins, qu'on appelle aussi moines noirs. Au XIe siècle, la puissance de Cluny domine l'Occident. Cluny est la lumière du monde. C'est ainsi que le pape Urbain II, le 9 janvier 1097, s'exprimait pour qualifier cet ordre, lui-même ancien clunisien. Le souci est de séparer les sphères du sacré et du profane. Le monastère est une figure du paradis, construit autour des reliques de saints. Les bâtiments ont des mesures idéales, avec des déambulatoires, des galeries, des hôtels, églises et jardins. Nous avons à Moissac une magnifique abbaye bénédictine fondée sous Clovis et intégrée à cette congrégation clunisienne au XIe siècle. Moissac, chef-d'œuvre de l'art roman, est également célèbre pour son portail sculpté au XIIe siècle. Il représente l'histoire du salut entre chute et rédemption de l'homme. N'oublions pas aussi Saint-Cernin de Toulouse, joyau de l'art roman, et son rôle sur les routes de Compostelle. Dans cette lignée des bénédictins, l'abbaye de Lézate jouera un rôle très important dans le sud toulousain. Elle s'étendra jusqu'aux limites de Carbonne.
I'm losing my confession.
début du XIe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XIIe, l'art roman domine partout en Europe. Il manifeste la puissance de l'abbaye. Ces lieux sont des points de passage des pèlerins et enseignent la crainte de l'au-delà sur les tympans et les chapiteaux. Le pèlerinage est l'œuvre de l'individu, c'est une raison d'être, une raison de vivre. Quant à la croisade, elle sera celle d'un groupe auquel il faut associer l'espoir de biens de richesse plus terrestres. L'Église joue dans les États un certain rôle d'agent de cohésion qui n'est plus assuré par les souverains et les princes. Mais tout pouvoir entraîne un contre-pouvoir. Tout dogme entraîne un contre-dogme. Ainsi, les hérésies apparaissent plus nombreuses au XIIe siècle. C'est le temps des cathares. Au sein de l'Église, aussi, une opposition va naître. Trop de faste, trop d'abus, d'enrichissement aussi. Donc, trois hommes sont à l'origine du retour strict à la simplicité rigoureuse de la vie monastique et du labeur. Ora et labora, prière et travail. Ils vont créer Cîteaux et l'ordre des cisterciens. Il s'agit de Robert de Molesme, Étienne Harding et Bernard de Clairvaux. Et en 1098, c'est la sécession avec les Clunisiens. La charte de l'ordre est établie en 1109 et les quatre filles de Cîteaux naissent, Morimont, La Ferté, Pontigny et Clairvaux. Toutes aussi parties de Bourgogne. L'expansion de cet ordre est unique dans l'histoire de la chrétienté. À la mort de Bernard, il y aura 352 abbayes d'hommes et de nombreuses abbayes de femmes. Et à la fin du XIIIe siècle, plus de 700 en Europe. Saint Bernard influencera beaucoup grâce à son rayonnement spirituel. Ces abbayes ont toutes des moines défricheurs, venus de l'abbaye mère. Et Bonnefond est la fille de Morimont et la petite fille de Cîteaux. Elles portent toutes des noms liés à leur lieu de labeur. Escale à Dieu, fonte froide, fontaine froide, bonne fonte, bonne fontaine. La jeune abbaye de Bonnefond fut construite à partir de 1137 grâce au don de terre de la famille de Montpezat. Les Montpezat sont des seigneurs du Comminges dont l'important château fort domine toujours la vallée de la Garonne à Saint-Martory. Une vingtaine de moines y résidaient. Nous sommes sur la commune de Proupiary. Le lieu d'implantation est mûrement réfléchi. Il faut aux moines défricheurs l'isolement pour la prière, des bois, des prairies, de l'eau à proximité pour l'exploitation. Les cisterciens sont ingénieux. Ils connaissent les méthodes de captation de l'eau. Ils savent transformer cette énergie grâce à l'utilisation de l'arbre à cames pour les moulins et les forges à martinets. L'art cistercien interdit les représentations de scènes sculptées et les peintures dans les monastères. Bâtisseurs, leur édifice nous émerveille par le matériau. Ici, à Bonnefond, la pierre est proche. Le langage architectural rigoureux, sobre, épuré. Les moines défricheurs commencent à construire l'église, caractérisée par sa rigueur, sa symbolique, en croix latine. À coupole ou à fond plat, elle est faite de symbolique et de lumière, ce qui fait sa beauté. Le nom de cistercien viendrait de la feuille de ciste, plante des marais, qui inspirera les sculptures à feuilles lisses de leurs chapiteaux. Ainsi, en 1173, la Granja de Canet, de Carbona, de Gonac, sont cédées à l'abbaye de Bonnefonds par les familles de Rieux, de Tersac, de Noé, de Montaud, de Benque, de Marquefave. L'abbaye obtient ainsi d'immenses territoires. Et à la féodalité laïque va donc se substituer une féodalité ecclésiastique. Les granges sont des exploitations agricoles qu'il faut protéger et qui nécessiteront de la main-d'œuvre. L'organisation de la société monastique distingue les moines de cœur, qui se consacrent à Dieu, ce sont les fils en général de la noblesse. Ils se distinguent des converts, qui sont des paysans, ouvriers, maçons, charpentiers, jardiniers, verriers, et qui auront pour tout salaire le couvert, un toit et la promesse du salut. L'immensité de leur territoire, les moines converts ne peuvent pas seuls exploiter. Aussi vont se créer des colonies de population dans des endroits plus faciles à défendre. Le site de Gonac, sur la rive droite de la Garonne, est de plus en plus abandonné au profit du site de Carbona, situé dans la boucle, sur la rive gauche de la Garonne, mieux protégé. Les étrangers reçus au bout du pont crée une colonie et la Granja de Carbona devient Villa de Carbona. Dans cette population mêlée, l'activité et des hérétiques gênaient celle des cisterciens. Il y eut sans doute des conflits. Amaury de Montfort brûlait les villages et Carbona n'y échappera pas en 1244. 5 ans plus tard, le comte de Toulouse, Raymond VII, meurt et son gendre, Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, hérite le comté. C'est le début d'un grand changement. C'est le début des Bastides. Carbonne devient ville royale. À Carbonne s'institue une charte de pariage. Il s'agit d'une cogérance de la ville entre deux parties, le prince et l'abbaye. De la même manière vont être créées les Bastides de Boussens, Plaisance du Touche, l'Estel et Saint-Martory. Toutes sont gérées par les moines blancs de Bonnefonds qui possèdent des pâturages jusqu'aux frontières de l'Espagne. L'histoire de Carbonne est donc étroitement liée à l'abbaye. Au XIIIe siècle, Bonnefonds participera à la construction du pont de pierre situé au Pilat, aujourd'hui disparu, et à l'organisation en bastide autour de sa première église. Les moines obtiendront des dîmes et des droits d'eau sur les usages du port et des moulins, ainsi que sur les troupeaux et cultures. Carbonne deviendra un bourg commerçant et les foires et marchés, fixés le jeudi, feront sa renommée. La Bastide devient paroisse. Il se crée un conseil politique qui dépendra de Toulouse. Et après la création de l'évêché de Rieux, 1317, l'influence religieuse de l'abbaye de Bonnefonds va peu à peu diminuer. C'est grâce à la volonté de Bonnefond que la ville, détruite pas pour la seconde fois, victime des hordes du prince noir en 1355, va se relever et se reconstruire. Le roi de France étant alors prisonnier des Anglais et la France un pays ruiné. Une nouvelle église apparaît dès la fin du XIVe siècle. Elle reste au même endroit que la première. Dans le style gothique méridional, elle met en valeur la brique. Deux statues de moines cisterciens entourent le chœur. Son clocher, à l'origine, est un clocher mur languedocien et son portail en pierre de Belbèze rappelle les nouveaux portails toulousains et l'influence des cisterciens par ses chapiteaux floraux. La ville est reconstruite plus au nord, afin d'envisager des remparts plus défensifs. À la fin du XVIe siècle, la population souhaitera un lieu de culte dans ces remparts, car l'église est excentrée de la ville. Les moines de Bonnefond aideront ainsi à la construction de la chapelle Saint-Jacques, en fournissant les matériaux venant de la démolition de la chapelle de la Barre. L'inauguration a lieu en 1620. La Révolution met fin à l'activité de l'abbaye. Elle sera vendue comme bien national. Propriétaires et successeurs démantèlent le bâtiment et on disperse les éléments. Ainsi, le portail de la salle capitulaire ira à Saint-Martory. La façade de l'abbatiale à Touille, des éléments du cloître à Saint-Gaudens et au closter de New York. Sous l'impulsion de la Société des études du Comminges, l'abbaye a été classée en 1984 et une association valorise le chef-d'œuvre. Des fouilles ont été réalisées. Aujourd'hui, le bâtiment des convers est entièrement restauré. Il permet de mettre en valeur les nouveaux vitraux et expose les nombreux chapiteaux et colonnes, le lavabo ainsi qu'un enfeu. Des éléments du cloître sont réinstallés. Le jardin médiéval se visite. Nous regrettons la perte du pigeonnier, effondré avant 1980. Enfin, la porterie est parfaitement restaurée et permet des expositions itinérantes. Tous les étés, des visites guidées mettent en valeur ce patrimoine, apportent au public des explications sur l'œuvre des cisterciens du Comminges, qui furent, ne l'oublions pas, les fondateurs de notre ville. retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.